Confidence Sportive, agence de communication marketing spécialisée dans le sport, et Citron Productions, votre prestataire audiovisuel, vous présente Rendez-vous Grenat. Rendez-vous Grenat, Vianetrice Kayser, Thomas Mertz.
Salut à tous, soyez les bienvenus dans Rendez-vous Grenat. Au sommaire de votre podcast aujourd'hui, le FC Metz s'est incliné 4-3 à Brest hier après-midi. Retour sur la 17e défaite des Grenats cette saison dans un instant. Un gardien qui fait passer des messages sur la tactique du coach sur les réseaux sociaux, un défenseur qui dit clairement en conférence de presse que les joueurs font leur propre choix tactique entre eux, Laszlo Bologni a-t-il encore les clés de son équipe? C'est notre débat du jour. Juste après, les chroniqueurs nous livreront leur top et flop de la semaine avant de nous pencher sur la réception de Lens, ce sera vendredi à Saint-Symphorien. Enfin, nous finirons avec notre quiz. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve évidemment Thomas Mertz. Salut Thomas.
Salut Vianney, salut à tous.
La team France Bleu est avec nous également, bien représenté par Thomas Lavaux. Salut Thomas.
Salut tout le monde.
Les supporters ont la parole dans Rendez-vous Grenat. Lui ne s'appelle pas Thomas, heureusement pour moi, sinon je vais avoir du mal. Mais il s'appelle Loïc, notre supporter sommelier. Salut Loïc.
Bonjour Vianney, bonjour les deux Thomas.
Salut. Alors messieurs, on revient tout de suite sur ce Brest-Metz. Thomas Lavaux, un match fou hier après-midi avec 7 buts à la clé. Mais au final, c'est à nouveau une défaite pour le FC Metz.
Au moins, on voit des buts. Là, ça fait deux journées où on a vu beaucoup de buts. Le scénario du match me fait penser à celui de Monaco. Si on analyse froidement le résultat, on se dit que Metz a marqué 3 buts face à la meilleure défense de la Ligue 1, l'une des meilleures défenses tout championnat confondu en Europe depuis le début de l'année civile. Dans les faits, il y a eu 15 bonnes premières minutes, 15 bonnes dernières minutes, mais entre les deux, on a mesuré tout l'écart qui pouvait exister entre le Stade Brestois et le Football Club de Metz. Il y a une ouverture du score, il y a la possibilité de reprendre l'avantage très tôt dans la rencontre. C'était encourageant, même si on sentait déjà un peu de fébrilité défensive de la part du Football Club de Metz. Et puis finalement, derrière, en 15 minutes, 20 minutes, Brest a retourné la situation totalement en marquant 2 buts. Préalable à ces 2 buts, il y avait également 2 arrêts décisifs d'Alexandre Oukidja. Donc on pourrait se dire que c'est pas mal, qu'on a fait douter Brest, qu'on a poussé Brest dans ses derniers tranchements. D'autant qu'après le 3e but, il y a aussi quelques situations avec des appels de balles de Papa Amadou Diallo. Il y a une frappe de Cheikh Sabali qui passe pas si loin que ça. Mais en réalité, je pense que l'écart entre le FC Metz et le Stade Brestois, il est de plus d'un but. Et on l'a vu durant 65 minutes, en fait, entre les deux temps forts messins.
Loïc, est-ce que tu as cru, toi, de ton côté, à un improbable retour du FC Metz à une égalisation en fin de match?
Sincèrement, non. Après, voilà, on a mis 5 buts en 2 matchs. Mais bon, il y en a quand même 9 derrière, d'encaisser derrière. Voilà. Je sais pas, sincèrement, cette équipe, c'est tout, c'est rien, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de cohésion entre le directeur sportif, l'entraîneur, les joueurs, on est perdu, tout simplement. On ne sait pas où on va, on ne sait pas s'ils veulent se maintenir, si Laszlo Bologni, je pense qu'il a perdu les clés il y a bien longtemps qu'on aurait dû changer d'entraîneur. Et après, voilà, on ne sait pas pourquoi M. Serin est têtu à ne pas renouveler.
Bon, Loïc, il nous fait déjà le teaser pour le débat et juste après. Merci, mon cher Loïc. Thomas, c'est vrai qu'il y a de nouvelles désillusions, mais quelque part habituelles sur le plan défensif du FC Metz. En revanche, on était surpris de voir un FC Metz marquer 3 buts à la meilleure défense du championnat. Est-ce qu'on peut dire que c'est malgré tout encourageant pour le FC Metz pour cette fin de saison?
Il y avait des retours de joueurs qui étaient suspendus et blessés, donc l'équipe était sur le papier plus armée à faire un résultat que le match face à Monaco. En plus, Eric Roy l'avait dit en conférence de presse, il redoutait cette équipe messine. L'entame de match, comme l'a dit Thomas, était plutôt intéressant. Il y a eu des percées de Lamine Camara qui a amené le corner et derrière le but de Traoré. Mais force est de constater que la fragilité de cette équipe fait qu'elle encaisse des buts. Sur le match, c'est vrai qu'il y a eu un écart qui était quand même assez conséquent en termes de jeu. Et puis, c'est le même scénario que face à Monaco. Quand les joueurs sont libérés, ils arrivent à jouer. Quand ils arrivent à jouer, ils arrivent à pousser l'équipe adverse dans leur retranchement. Ils arrivent à marquer des buts, donc c'est plutôt encourageant puisqu'on marque 5 buts en 2 matchs.
Mais derrière, on en prend 9.
On en prend 9, donc forcément c'est compliqué. Et c'est dommage parce que on partait de trop loin encore une fois et il y a du mal à être optimiste pour la fin de saison en tout cas.
Lorsqu'on voit le FC Metz passer de 4 à 1 à 4 à 3, selon vous, c'est le FC Metz qui se met enfin au niveau de la Ligue 1 ou c'est Brest qui lève le pied, Thomas ?
Le but du 4-2, c'est l'illustration que Brest, à mon avis, avait un peu levé le pied. Brest est totalement à sa place. On n'est pas deuxième après 28 matchs par hasard, mais c'est une équipe qui, contrairement peut-être à Monaco, peut-être à Nice, aux autres équipes qui espèrent une qualification directe en phase de poule de la Ligue des Champions, c'est une équipe qui va peut-être avoir un peu plus de mal à se positionner, à pouvoir assumer durablement ce statut d'équipe qui doit faire le jeu, qui doit prendre le dessus sur son adversaire. Hier, ils se sont peut-être un petit peu dit qu'à 4-1, c'était plié, c'était joué, et qu'ils ont peut-être eu un relâchement un petit peu plus coupable. Cela dit, quand les situations se présentent, quand les situations de marquer des buts se présentent, il faut les saisir. Et depuis qu'on a Georges Mikotadze, ces situations-là, on peut les exploiter. Et dans ce cas-là, on ne peut finalement que regretter d'attendre d'avoir match perdu, comme ça avait été le cas contre Monaco également 8 jours plus tôt, pour saisir ces situations-là. Quel que soit le schéma, la philosophie de jeu, si on plante le bus dans notre surface de réparation, les matchs, on les perd. On a perdu à la mi-temps, on avait perdu dès le quart d'heure de jeu contre Monaco. À Brest, on s'est fait retourner en l'espace de 25 minutes en première mi-temps. Donc, essayons d'être un petit peu plus ambitieux, d'avoir un petit peu plus envie. Ces situations-là, faisons en sorte de les provoquer, un peu comme Georges Mikotadze l'a fait sur son occasion du 2-1, plus tôt dans la rencontre. Malheureusement, est-ce que c'est une philosophie ? Est-ce que c'est un schéma qu'on est prêt à aborder ? Je ne suis pas persuadé, on en reparlera.
Allez, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction du capitaine du FC Metz, Mathieu Hidol, au micro de Prime Vidéo.
C'est compliqué, hein ? Quand on joue un maintien, qu'on prend autant de buts, 9 buts sur les 2 derniers matchs, c'est difficile de gagner des matchs. On avait bien commencé en ouvrant le score. C'est rare dans cette saison qu'on mène au score, mais... On s'est fait trop rapidement rejoindre et puis après on a été que dans la réaction. Notre classement fait que forcément c'est difficile d'être optimiste, le contenu de nos matchs aussi, donc à partir de là c'est sûr que c'est difficile d'être optimiste, en plus de ça on a un calendrier très compliqué, donc difficile d'être optimiste. Après on va tout donner pour essayer d'aller chercher des points quand même, honorer ce maillot parce que c'est important, on a des supporters qui ont fait le déplacement encore une fois, qui nous soutiennent, qui sont derrière nous, mais c'est très compliqué.
Ouais, c'est très compliqué pour le FC Metz et on sent quand même un Mathieu Hidol pour la première fois résigné, Loïc.
Oui, mais pour que lui jette l'éponge, c'est que vraiment il doit y avoir quelque chose. Je pense que c'est notre moteur dans le vestiaire, sur le terrain. Il essaie toujours d'apporter sa positivité, mais là on sent vraiment qu'il se résigne en fait. Même lui, il n'arrive plus à trouver les mots, à trouver les solutions peut-être. Et qui le mieux que notre capitaine, notre faire-valoir du club, notre image du club sur le terrain, en dehors. Et il est irréprochable, on peut rien reprocher à Mathieu Hidol, et si même lui il dit stop, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ouais, c'est vrai Thomas Mertz, le rôle d'un capitaine dans les moments difficiles, c'est quand même de trouver le positif, de chercher des aspects positifs, surtout que le FC Metz n'est pas décroché, on l'a dit, tout est encore jouable mathématiquement. Là, on le sent quand même, cette résignation de Mathieu Hidol qui est assez surprenante.
Après, il y a de la frustration après le match, puisqu'il est à chaud directement au micro de la chaîne de télévision. Il n'y avait pas encore les résultats non plus des équipes qui ont joué le multiplex après. Donc oui, c'est sûr qu'il est frustré. Mais quand on se prend 3 buts en 15 minutes face à Monaco, là en 20-25 minutes face à Brest, tu peux faire les plus beaux efforts du monde, tu peux te dépouiller comme demandait Ismaël Traoré à la mi-temps. Si derrière tu en prends à chaque fois 2, 3, 4, ça va être difficile au classement. Et puis les adversaires, le calendrier, il l'a dit, il est compliqué. Donc tu joues, à part Le Havre et Strasbourg, où c'est des équipes à la portée du FC Metz, le reste est que des équipes qui vont jouer l'Europe, donc ça va être très compliqué.
Ouais, un petit mot quand même sur cette équipe du FC Metz, Thomas Lavaux, avec le coaching de Laszlo Bologna. Un positionnement un peu surprenant pour Cheikh Sabaly, qui est venu en milieu défensif hein, quasiment. Pour, c'est plutôt surprenant, lui, qui a l'habitude de jouer sur le côté.
Oui, normalement, il est positionné comme ailier gauche. Et c'est un joueur qui varie très, très peu dans son positionnement. Il est rentré en fin de match pour jouer plus bas que d'habitude. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il a eu une belle occasion. C'est lui qui amène le troisième but, parce que ça vient de lui, ça vient de sa percée, ça vient de sa frappe. Est-ce que c'est un positionnement, on va dire une réflexion tactique qui a entraîné ce positionnement en fin de match? J'en suis pas persuadé. Je pense qu'aujourd'hui au FC Metz, il y a effectivement dans cet effectif des joueurs incontournables. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis ensuite, on bricole un petit peu autour de ces joueurs-là. En attaque, c'est Georges Mikotadze. Et puis autour, à gauche, que ce soit Lamkelze, que ce soit Sabaly, à droite, que ce soit Jalo, que ce soit Assoro, que ce soit Van den Kerkhoff, etc. Bon, c'est au petit. On va dire que c'est en fonction de la forme, même pas du moment, c'est la forme du jour. Et j'ai l'impression que l'entrée de Cheikh Sabaly s'intègre plus dans cet esprit-là. Voilà, on est mené, bon, allez, on va tenter un truc, on va faire rentrer un joueur peut-être un petit peu plus offensif qu'un Sadibou Sané ou qu'un Aboubakar Lo. Pourtant, hein, Sadibou Sané, il a montré des belles choses récemment. Aboubakar Lo, on a tenté le coup la semaine dernière, ça n'a pas été couronné de succès. Donc, bon, allez hop, on remballe tout, tant pis, on a tenté, on a perdu, on fait rentrer Cheikh Sabaly. Ça a marché sur 15 minutes quand il fallait courir après le score. Est-ce que ça peut marcher sur 90 minutes quand il faut aller chercher le score? Je suis plus circonspect.
Allez, les résultats complets de cette 28e journée de Ligue 1 avec la victoire de Lille sur Marseille, 3-1 partout entre Lens et Le Havre, même score entre le Paris Saint-Germain et Clermont, victoire de Montpellier contre Lorient 2-0, 0-0 entre Reims et Nice, tout comme la rencontre Toulouse-Strasbourg, Monaco s'impose 1-0 contre Rennes et victoire de Lyon du côté de Nantes, 3-1. Le classement, le Paris Saint-Germain qui est en tête, hein, 10 points d'avance sur le stade brestois, le FC Metz reste 17e à 3 longueur du barragiste Lorienté. On en arrive à notre débat du jour, messieurs. Et souvenez-vous, la déclaration de Kevin Van den Kerkhoff, c'était juste après la défaite face à Monaco.
Le coach, il a ses consignes. Après, qu'on est d'accord ou pas, c'est ses choix. Nous, entre les joueurs, on se parle aussi. Quand il y a des choses qu'on n'est pas d'accord, on se parle entre nous. On fait nos choix aussi. Après, voilà, on a un coach, on a un staff, on les écoute et si ça ne va pas, on prend les choses en main.
Alors, des résultats catastrophiques depuis plus de 5 mois. Un gardien qui remet en cause la tactique défensive de son coach sur les réseaux sociaux et un joueur qui déclare que les joueurs font leur propre choix. Ma question est simple, Laszlo Bologna est-il dépassé par la situation sportive du FC Metz? A-t-il encore les clés de son équipe? Loïc.
Ça fait bien longtemps qu'il n'a plus les clés de son équipe. Je ne sais même pas ce que ce monsieur fait encore sous le banc du Football Club de Metz. J'ai un respect pour lui en tant qu'homme. Je pense que c'est quelqu'un de très gentil, mais il n'a plus sa place au FC Metz depuis bien longtemps. Il a perdu les clés il y a une bonne dizaine de journées. On a accumulé un nombre incalculable de défaites. Je pense que tout président, tel qu'il soit, aurait déjà changé d'entraîneur. Mais là, on ne comprend pas qui pilote, qui gère. Est-ce que c'est M. Serin? Est-ce que c'est M. Dri aussi? Est-ce que c'est une personne extérieure au club? On ne sait pas. Il n'y a rien. Qui pour nous sauver, sincèrement, qui pour nous sauver? Est-ce qu'il faut un pompier de service qui vient sur les quelques matchs? Est-ce qu'il faut déjà qu'on se projette pour l'année prochaine, éventuellement en Ligue 2? On ne sait pas. Moi, je pense que sincèrement, il faut quelqu'un qui vienne en tant que pompier de service. Mais qui va venir dans cette situation? Qui va venir dans ce club-là? Les joueurs font des déclarations, les joueurs font leur propre choix dans leur scie, mais on est où, quoi? Enfin, c'est pas un club de football en ce moment.
Ouais, on sent qu'il y a un gros ménage à faire, quel que soit le résultat de la saison, Thomas Mertz. Il y aura un gros ménage à faire, que ce soit au niveau du staff, soit peut-être même au niveau des joueurs.
Ah bah, de toute façon, si descente il y aura une restriction au niveau du budget, donc forcément, il y aura des départs de joueurs, obligatoirement. Là où il y a la déclaration de Van den Kerkhoff, c'est aussi de... Alors, il dit les joueurs parlent entre eux et puis font leur tactique.
Ce qui est normal. Enfin, qu'ils parlent entre eux, en tout cas.
Oui, j'entends très bien qu'ils parlent entre eux. Pour le coup, face à Monaco, puisque c'était juste après ce match-là, sur le terrain, quand ils se prennent les buts, il n'y a aucun joueur qui dialogue entre eux. Donc, c'est quand même assez éloquent de voir ça et surprenant parce que ils sont perdus. Donc il a fait en plus un match catastrophique, donc ça montre pas non plus que je pense pas que c'était la bonne personne pour aller parler en conférence de presse. Donc ça rajoute encore des choses négatives à cette situation du FC Metz. Et puis après, Bologne, oui, est perdu. Il a encore fait une déclaration hier en disant qu'il voulait sortir un milieu de terrain au bout de 30 minutes, il l'a pas fait. Il donne pas le nom du joueur. Je sais pas si cette déclaration amène un plus dans ce qu'il veut mettre en place. En tout cas, ça dessert encore plus le collectif. Et puis il y a aussi l'entrée d'Endoram, on en a pas parlé hier, mais qui prend un temps fou parce qu'il a encore un collier sur lui. C'est tout sauf du professionnalisme. Et quand on doit jouer un maintien, bah, on a besoin d'avoir un collectif concerné, ce qui n'est pas le cas.
Ouais, Thomas Lavaux, c'est vrai que l'ASLO Bologna, la situation n'est vraiment pas simple pour lui et pas simple pour les joueurs non plus.
Si ce club donne l'impression de répéter les cycles sans jamais vraiment évoluer, c'est parce qu'il ne retient pas les leçons. Alors penchons-nous un petit peu sur les leçons du passé contemporain du Football Club de Metz. Passé contemporain 2 ans en arrière et actualité brûlante en ce moment. Il y a 2 ans, le FC Metz, si vous vous souvenez, il se remet en selle, en faisant une semaine à 6 points, en battant Angers et Lyon. Le FC Metz, alors que se retrouve barragiste, et ces deux matchs-là, ces deux victoires-là, en fait, elles sont consécutives à une défaite à Lorient, et qui est le soir où Frédéric Antonetti avait acté que le FC Metz ne pourrait pas se maintenir, parce qu'effectivement le scénario de la défaite de Lorient avait été particulièrement cruel pour son équipe. Ce soir-là, Lorient, il s'est dit c'est fini, on ne se maintiendra plus, et derrière on fait 6 sur 6 et on marque 3 buts contre l'Olympique Lyonnais, des lucarnes à la 93e, etc. Derrière, malheureusement, ça n'a pas suffi. Maintenant, penchons-nous sur l'actualité un petit peu de cette équipe. Les deux derniers matchs face à Monaco. La rupture avec l'ASLO Bologna, elle n'est pas totale, parce que pendant 65 minutes, contre Monaco, contre Brest, on applique fidèlement le plan de jeu de l'ASLO Bologna, ce schéma que l'ASLO Bologna défend depuis le début de la saison. Et puis, on a ces fins de match, un petit peu à l'emporte-pièce, parce que l'adversaire est démobilisé, mais on arrive à lui faire mal, on arrive à le lui faire payer, malgré tout quand même. Est-ce que ces fins de match, moi ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais que les joueurs nous disent, c'est est-ce que, effectivement, elles peuvent s'expliquer par le fait que les joueurs se prennent un petit peu plus en main. Les joueurs adoptent, on va dire, un positionnement, un jeu plutôt, le jeu que les joueurs aimeraient voir appliquer. Si tel est le cas, dans ce cas-là...
Ils sortiraient des plans de l'ASLO Bologna dans ces périodes-là, c'est la question qu'on
voilà,
peut se poser.
Voilà, moi c'est ce que j'aimerais savoir. Et si tel est le cas, eh bien dans ce cas-là, il faut que l'ASLO Bologna l'entende. On a eu des expérimentations tactiques il y a un mois et demi, ça a duré 3 matchs. Oui. On a joué avec 3 défenseurs centraux, on a joué avec 2 attaquants. Je pense qu'on n'est pas allé au bout des expérimentations. On n'est pas allé... Hier, quand je vois un Didier Lamkelze, il y a 2 ans, c'était un chien fou. Il sautait sur tous les ballons, il prenait des cartons jaunes, etc. Et que hier, il est neutre. Il n'existe pas, ni offensivement, ni défensivement. Je pense que peut-être en le repositionnant en deuxième, il pourrait apporter. Je pense qu'on n'est pas allé au bout des expérimentations. Et l'ASLO Bologna, ça est-il prêt à l'entendre ? Je sais pas, c'est pas un entraîneur qui brille vraiment par sa capacité d'adaptation, il a ses idées, je pense qu'il va mourir avec, et pourtant l'année dernière je pense qu'il s'est accommodé d'une situation pas simple, faut pas brûler ce qu'il a fait l'année dernière, mais moi ce qui me choque vraiment cette année c'est l'écart entre la quintessence qu'il a pu tirer l'année dernière du groupe et cette année, cette impression de dérive qui marque la fin de saison du Football Club de Metz. C'est vraiment l'écart entre les deux situations. Et oui, moi, je vous partage tout à fait quand vous dites que l'ASLO Bologna me semble perdue et avoir atteint un plafond.
Eh bien, on verra vendredi si l'aspect tactique change du côté de l'ASLO Bologna. On le rappelle, hein, vendredi, c'est Metz contre Lens. Messieurs, on en arrive à vos top et flop. Thomas Mertz, on commence avec toi. Avec un premier top du côté de l'Espagne.
C'est l'Athletic Bilbao qui a remporté la Coupe du Roi. Ça fait 40 ans qu'ils n'avaient pas remporté de trophée dans un pays, dans un championnat où les équipes qui trustent souvent les trophées sont le Real Madrid, l'FC Barcelone, Séville, encore l'Atlético. C'est un joli clin d'œil à un club qui a une vraie identité. Par rapport à ses joueurs, par rapport aux Pays Basques, ils ont des anciens joueurs passés par la Ligue 1. Et je trouve que c'est une belle chose. Ça montre qu'on peut faire des belles choses, même si on n'est pas parmi les plus gros budgets de ce championnat.
Allez, il y a un club qui, en championnat en tout cas, finit en roue libre et qui a complètement laissé son championnat, c'est le Bayern Munich.
Ils menaient 2-0 sur la pelouse d'Heidenheim, qui est promue.
2-0 à la mi-temps, hein, je crois.
2-0 à la mi-temps. Ils ont complètement craqué, ils ont perdu 3-2. Je pense que c'est un peu dans le parallèle et peut être fait avec le FCMS où Thomas Tuchel, lui, le coach, est complètement, je pense, lâché par ses joueurs. Ils ont perdu face à Dortmund. Bon, le championnat est bien sûr terminé pour eux. Ils ne seront pas champions après avoir remporté le championnat pendant 10 saisons. Ça va être compliqué. Ils n'ont pas la saison qui est terminée puisqu'ils ont encore Arsenal qui va se mettre sur leur chemin en Ligue des Champions. Je ne les vois pas favoris, alors que, mine de rien, par rapport à leur effectif, ils sont taillés pour aller très très loin. C'est dommage, et en tout cas, à voir si cette malédiction Harry Kane continue, mais c'est très problématique pour ce club.
Ouais, et le Bayer Leverkusen qui pourrait même être champion dès dimanche prochain en cas de victoire sur le Werder Bremen, puisqu'il y a 16 points d'écart et il n'y reste que 6 matchs à disputer en championnat. Loïc, avec toi, on parlait d'Arsenal justement. C'est ton top, c'est ce championnat anglais qui réserve plein de surprises pour cette fin de championnat.
Ouais, effectivement, ouais, on ne peut pas se projeter, on ne sait pas qui va se détacher. Il y a une belle lutte entre trois équipes qui jouent chacun magnifiquement leur jeu. Arsenal, Manchester City, Liverpool. On ne peut pas mettre une pièce sur telle ou telle équipe. Je pense même que ça va se jouer dans les deux ou trois dernières journées, voire même peut-être à la dernière. C'est déjà arrivé, Manchester City avait gagné le titre il y a quelques années, à la dernière seconde, ouais. Même avec un but, je crois, mémoire de Samir Nasri. Et vraiment, c'est magnifique ça d'avoir un attrait, de se dire tiens, c'est pas joué quoi. Dans plein de championnats c'est joué, hein. En France c'est joué, en Allemagne comme le disait Thomas c'est joué, et là c'est quand même le plus grand championnat du monde, la première ligue, et on sait pas qui va se détacher, qui va être champion, qui va être deuxième, qui voilà. Et c'est magnifique d'avoir un attrait comme ça.
Ouais, c'est sûr qu'en France, la 10 points d'avance pour le Paris Saint-Germain, on n'est pas prêt de vivre ça. Enfin, ce ne sera pas cette saison en tout cas. Pour ton flop, direction la Turquie.
Ah ouais, une parodie de football, une parodie d'un club. Comment on peut déjà, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses. Envoyer une équipe du U19, très bien, ça peut faire jouer des jeunes à un haut niveau. Marseille l'avait fait il y a quelques années en envoyant ses jeunots qui avaient fait un exploit au Parc des Princes en faisant un match nul. Mais là, commencer le match, faire venir des supporters, faire déplacer les équipes de télévision, prendre un but au bout de 50 secondes de jeu, c'est déjà arrivé plein de fois, mais arrêter le match comme ça, c'est un scandale, et j'espère sincèrement qu'ils vont être sanctionnés et peut-être même être interdits de coupe d'Europe. On ne peut pas faire ça. Pour l'éthique du football, on ne peut pas faire ça.
Merci beaucoup, mon cher Loïc. Thomas, un top très sympa. J'avais pas vu le communiqué du club de Marseille, mais c'est vrai que Marseille et Benfica qui avancent main dans la main pour les supporters.
Oui, parce qu'il y avait encore des mesures administratives d'interdiction de déplacement qui avaient été prises en prévision de ce quart de finale de Coupe d'Europe.
On est champion du monde, je pense, en France par rapport à ça. Hein.
C'est clair.
Mais regardez, cette semaine, ce week-end, j'ai regardé peut-être plus la Bundesliga que la Ligue 1. Il y avait les 50 ans du Westfalenstadion, il y avait le match du Bayern à Heidenheim, il y avait des parkages visiteurs remplis. Même avant le match hier, Amazon avait remontré, alors bon, c'était pour montrer le premier but de Reims au bout de 2 minutes contre le FC Metz, mais il y avait encore le parkage messin plein, le tifo. Avec l'ancien logo des années 60. Mais c'est super de voir ça. Et puis derrière, moi, je suis rentré chez moi, alors déjà un peu énervé par la défaite de Brest. Et puis en plus, la perspective de regarder Nantes-Lyon dans un stade vide. Alors visiblement, c'est rigolo. On entendait bien Antoine Comboiré. Mais bon, c'est triste. Et,
c'est sûr qu'Antoine Comboiré, c'est pas un poète. Hein.
C'est pas l'Aslo Bologna qui ne dit rien.
C'est pas une belle pub pour la Ligue 1 non plus.
Et on a besoin de ces les ambiances, on a besoin de ces atmosphères-là, d'autant plus après, enfin, je reviens pas à les années Covid, etc. On a besoin de tout ça, et le fait que deux clubs sur un match à enjeu, un quart de finale de Coupe d'Europe, ben voilà, s'entendent, se mettre d'accord dans un objectif commun, je pense que c'est une excellente chose. Il faut du dialogue, mais à tout point de vue, que ce soit du niveau des autorités, des forces de l'ordre, des clubs, des associations de supporters également, qui ont aussi une obligation entre guillemets de responsabilisation. Là, on l'a peut-être, parce qu'en plus un Marseille-Benfica, ça peut vraiment être le feu. Il y a une histoire entre les deux clubs, Marseille-Benfica. Bon, on remonte.
La main de Vata.
Ouais, c'est que
91, je crois.
Sans faire exprès, je t'ai lancé en disant Marseille et Benfica main dans la main. Il y a toujours une histoire de main avec ces deux clubs.
C'est pas mal. La main de Vata.
Ouais,
c'est dans les transitions.
89
parce que 91, 89. C'est l'étoile rouge de Belgrade.
Ouais, tout à
Paris,
fait.
La finale exactement. De Paris, où il perd le pénalty, je crois.
Allez, pour un flop, on revient en France pour ce flop et la déclaration du président du Havre.
Voilà, qui a accusé le Paris Saint-Germain de fausser le championnat à l'issue du match nul contre Clermont. J'avoue que j'ai pas compris ni sur le fond ni sur la forme la remarque de Jean-Michel Troussier. Si je dois apporter une explication, c'est que jouer son maintien, jouer sa survie en Ligue 1, ça met les nerfs à fleur de peau. Mais je pense que Jean-Michel Troussier, samedi soir, aurait dû être tout à la joie du point acquis par son équipe sur la pelouse de Lens. C'est un excellent point. De toutes les équipes qui sont embarquées dans la lutte contre la relégation, celle pour laquelle je me fais le moins de soucis, c'est le Havre. Même s'ils ont on a une fin de championnat complètement folle. Hein. On a un quart du championnat qui avance à un point de moyenne par match. Normalement, avec un point de moyenne, vous êtes relégué. Et là, le Havre, ils avancent pas très très vite. Ils n'ont pas une moyenne de points très 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 impressionnante, mais j'ai pas l'ombre d'un doute les concernant, parce que je trouve que ça travaille plutôt bien. Je pense que Jean-Michel Troussier pourrait se concentrer là-dessus, préparer aussi à mon avis la saison prochaine, essayer de garder la même cohérence dans sa politique. Ils ont prolongé Mathieu Bodmer, c'est très bien, garder la même base défensive, parce que c'est vraiment propre de ce point de vue-là ce que propose le Havre, plutôt que d'aller chercher des noises entre guillemets au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ils étaient entre un quart de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone et un match remporté au Parc des Princes, et puis faire un procès en déstabilisation de la Ligue 1 Paris Saint-Germain cette année, quand on voit comment, enfin le cirque que c'était les saisons précédentes avec les cas Neymar et Messi. Je pense que cette année, Paris est peut-être un petit peu moins coupable de ce point de vue-là. Et puis dernièrement, Paris doit rien au Havre non plus, hein, point final.
Exactement. Le PSG s'est offert le droit d'être un peu plus confortable dans cette fin de championnat et de permettre de faire tourner son effectif pour bien justement préparer ce match de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Les autres résultats en National 3, Thionville s'incline face à la réserve troyenne de Buzyn au stade de Gantrange. Metz perd à Strasbourg 2-0. Au classement, Thionville reste en tête avec 6 points d'avance sur son adversaire du jour. Le FC Metz est 10e. D2 féminine, très international oblige, pas de championnat pour les Messines, et tout comme les hommes, elles défieront le RC Lens le week-end prochain pour se rapprocher du maintien. Metz-Lens, justement, c'est donc vendredi au stade Saint-Symphorien, une équipe lensoise, Thomas Laveau, qui semble marquer le pas ces derniers temps, un point pris sur 9 possibles.
Comme le FC Metz à Brest, Lens partait peut-être de trop loin. Ils ont eu un début de saison assez compliqué, peut-être la gestion entre deux saisons en parallèle. Quand on fait la Ligue des Champions, c'est une saison parallèle, c'est pas une deuxième saison imbriquée dans une autre. Ils avaient peut-être pas l'expérience pour gérer cela, et c'est peut-être ce qui leur a fait défaut. Il y a eu un beau rapproché en fin 2023, début 2024, mais quand on part de très très loin, c'est compliqué d'arriver au but. C'est peut-être une bonne leçon pour le FC Metz, hein, quand on part à 20 mètres de son but, compliqué pour aller marquer 80 mètres plus loin. Le RC Lens, c'est peut-être un petit peu ça. Après, ils sont encore dans la course. Ils ont Elie Wahi qui marque des buts en ce moment,
oui.
Qui fait quelques statistiques. Je m'attends, moi, à un match aussi compliqué à gérer personnellement que ceux de Brest ou de Monaco, même si Lens est dans une situation moins enviable.
Ouais. Loïc, c'est vrai que le FC Metz, pour pour obtenir son maintien, se doit de battre un ou voire ou des gros. Ce match face à Lens fait partie peut-être de ceux qui sont le plus abordables pour les Grenats.
Oui, je pense. Mais je pense que Lens a une petite... petit pincement pour le match aller où vraiment on gagne alors qu'on est dans les choux. On est clairement dans les choux, on gagne ce match. Je
pense que c'est c'était le plus gros hold-up de la saison. Ouais.
Une des seules références sur laquelle la saison on peut se fier. Et je vais être optimiste, on va dire qu'il y a une chance. Tant que c'est pas fini, il y a une chance. Toulouse l'a fait il y a une dizaine d'années, ils étaient complètement dans les choux, ils changent d'entraîneur. Dupraz arrive, il inculque.
On a bien compris qu'il fallait changer d'entraîneur pour que ça marche.
Mais, peut-être. Mais voilà, j'espère sincèrement que Laszlo Bologny va trouver les mots, lui ou peut-être ses adjoints, et que Mathieu Hudol va réussir à parler à ses coéquipiers pour faire le résultat face à Lens. On peut y croire un petit peu, mais. De toute façon, ça passera obligatoirement par des victoires et par des surprises. Et il va falloir gagner face à Lens, il va falloir gagner sur les équipes qui arrivent. Et... Oui.
Thomas Mertz, est-ce que c'est le match de la dernière chance ou est-ce encore trop tôt pour parler de dernière chance pour le FCMS ?
Je ne dirais pas que c'est le match de la dernière chance puisque, ça, comme l'a dit Thomas, ça avance quand même très lentement dans le bas du classement et mine de rien, le FCMS n'est pas décroché. C'est peut-être la seule chose qui peut être... qui peut amener de l'optimisme pour le FCMS. Et après, évidemment, comme l'a dit Loïc, il faut gagner des matchs. Lens n'est pas dans la forme non plus de sa saison, même si je pense qu'ils vont lancer leur sprint final. Ils ont digéré, je pense, cette Ligue des Champions. Ils vont potentiellement quand même jouer, je pense qu'ils vont se qualifier pour une Coupe d'Europe. Peut-être qu'ils sont, ils sont plus taillés pour une Europa League, ce qui est déjà très bien par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça va dépendre de comment Metz essaye d'emballer le match. S'ils arrivent à reproduire les mêmes premières minutes que face à Brest et ouvrir le score, ça peut être intéressant. Après, c'est sûr que s'ils sont rapidement menés, comme ce fut le cas face à Monaco, ça va être très compliqué pour eux.
Allez, à suivre également lors de cette 29e journée, Strasbourg face à Reims, Rennes contre Toulouse, Le Havre qui accueille le FC Nantes, Clermont accueillera Montpellier, Lyon face à Brest, Lorient accueillera le Paris Saint-Germain, Monaco-Lille et enfin Marseille contre Nice. Messieurs, fin d'émission, qui dit fin d'émission, on dit quiz. On va voir si vous avez bien suivi l'actualité foot du week-end. Comme d'habitude, droit à une seule réponse par question. Et c'est le premier qui donne la bonne réponse qui marque le point. Allez, en Première Ligue, quel joueur français a marqué contre City ce week-end ?
Mateta ?
Non.
Hudson-Edouard ?
Hudson-Edouard, premier point pour Thomas Mertz. En Ligue 2, combien de points d'avance compte le leader auxerrois sur son dauphin stéphanois ?
10.
Non. Et c'est bien sûr avant le match de ce soir contre 3.
4.
4 points, égalisation de Thomas Lavaux. En Ligue 1, combien de buts ont été inscrits ce week-end ?
28.
Non.
22.
Eh bien, Loïc, tu égalises, c'est bien. 22. Un point partout. En BGL Ligue, au Luxembourg, quel club caracole en tête du championnat ?
Differdange.
Ouais. Esperange.
Differdange. C'est Differdange, tout à fait. Deuxième point de Loïc. Attention, dernière question. Elle vaut toujours 2 points. En Italie, quel club s'est emparé de la 5e place après sa victoire dans le derby ?
Roma.
La Roma, eh bien, victoire de Loïc. L'AS Roma qui a battu la Lazio 1-0. Merci beaucoup, mon cher Loïc. Un petit mot quand même sur le restaurant ?
Ah bah, le restaurant tourne très bien. Je m'éclate, je prends du plaisir. C'est du bonheur à chaque service. Chaque bouteille ouverte est un moment de...
Rappelle le nom du restaurant quand même.
Restaurant hein. Toya à Folkemont.
Exactement. Merci beaucoup Thomas Lavaux. Également sur les programmes 100% FCMS.
Bah, tous les lundis, 18h-19h, les matchs en direct, les après-matchs en direct. On a encore beaucoup d'appels. Il y a encore beaucoup d'auditeurs voilà, qui veulent y croire. Ces auditeurs-là, ces supporters-là avant tout, il faut que cette équipe-là parvienne à les emmener avec eux.
Et tant qu'il y a de l'appel, il y a de l'espoir. Bientôt. Merci beaucoup à toi aussi, mon cher Thomas Mertz. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer ce Metz Lens. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
Confidence Sportive, agence de communication marketing spécialisée dans le sport, et Citron Productions, votre prestataire audiovisuel, vous ont présenté Rendez-vous Grenat.